Anthropopop sur Radio BLV. Allez les anthropopotes, je vous embarque dans une aventure anthropologique à la découverte du monde et de sa diversité. À la découverte du monde et de sa diversité. Anthropopop, c'est l'émission d'anthropologie pour tous qui amène à relativiser nos propres visions du monde. Attention, attention, attention. Vous n'en ressortirez pas indemne. Salut les anthropopotes! Durant mes années à la fac, il y a un cours qui m'avait marqué, l'anthropologie du genre et des sexualités. La division simpliste homme-femme était totalement repensée. Parce que oui, il y a plein de recherches ethnologiques qui nous prouvent qu'il existe bien plus que deux genres seulement, bien plus qu'une seule manière de vivre son genre. Allez les anthropopotes, j'espère que vous êtes prêts et prêtes, parce que là, je vous embarque dans une aventure de déconstruction et ça peut bousculer.
Les garçons. Ah ben oui, maintenant j'aime bien les garçons parce que je vais bien. Et les garçons, maintenant, ça se lave. Ça sent bon, les garçons, maintenant, c'est tout doux. C'est tout doux. Vous savez, les crèmes et les jolies coiffures. Ah oh, ben j'ai les coiffures, moi j'ai les coiffures, ma petite crème hydratante. C'est très joli, les garçons. Et pourtant, ça continue à faire des choses dangereuses. Ah, je fais des choses dangereuses. Ça change les ampoules à notre place, les garçons. Parce que nous, on est trop petites. Ah, je suis trop petite. Oh, je suis trop petite. Oh, je ris, attention, ne pas te les trop du nez. Oui, j'ai éteint. Ah oui, mais comme ça, si quelqu'un doit mourir, c'est pas nous. Le sens du sacrifice, les garçons. Ah, oh, les garçons, ça fait des choses tout seul, ça allume les barbecues tout seul. C'est dangereux. Pendant que nous, on s'occupe de la décoration de la table. Chemin de table, bougie, perle, paillette. Oh, j'adore ça, les garçons, c'est très fort. Ça fait du bricolage. Ça fait beaucoup de bricolage. Ça peut construire un meuble Ikea tout seul, les garçons. Même quand il y a dessiné deux petits bonhommes sur la notice. Et après, nous, on doit faire croire que c'est joli et que c'est pas grave si c'est penché, chérie. On mettra une cale.
Ah là là, rien de mieux pour commencer l'émission avec l'humour de Florence Foresti et son art de rendre absurdes les rôles de genre. Mais déjà, posons les bases. C'est quoi le genre? C'est pas facile de lui donner une définition précise et fixe. C'est une notion polysémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens. Et surtout, il y a une histoire dans l'usage du concept. Il apparaît durant la seconde vague féministe dans les années 70 aux États-Unis, sous le terme de « gender ». Et il arrive en France petit à petit. Pour rappel, à cette période, de nombreuses féministes se lancent dans, attention gros mot, une dénaturalisation du sexe, qu'on peut résumer à la fameuse phrase de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient ». On questionne la soi-disant nature même des femmes, douce, maternelle, sensible. Même si ça reste une notion difficile à définir très clairement, on peut poser quelques jalons. Le genre est à comprendre comme un rapport social, un diviseur, un système qui produit une hiérarchie entre deux catégories, hommes et femmes. Le genre permet de mettre l'accent sur le système de représentation qui construit et reproduit les différences sociales entre ces deux catégories et les légitimes. Les hommes sont virils et aiment les steaks, et sont naturellement plus aptes à faire de la science, à occuper des postes de pouvoir, alors que les femmes sont douces et préfèrent le rose, et sont plus enclines aux tâches domestiques et aux soins à la personne. Voilà des jolis clichés qui n'ont rien de naturel, mais qui sont bien socialement et culturellement construits. Et c'est l'apport principal de cette notion. Une déconstruction d'une essence féminine ou d'une essence masculine qui serait naturelle, fatale, de l'ordre de la biologie.
Simple, basique, ok.
Oui, bon, j'avoue, c'est pas si simple, basique, comme vous le voyez. En fait, le genre, c'est un outil conceptuel. Comme une ébéniste qui a une scie ou un marteau avec des clous dans sa boîte à outils pour se confronter au bois et en faire une table, eh bien la chercheuse en sciences sociales, elle aussi, elle a une boîte à outils, des concepts qui lui permettent de saisir la réalité sociale sous différents aspects. Par exemple, je peux analyser une cour d'école à travers le concept de genre, c'est-à-dire je vais essayer de comprendre les relations entre les filles et les garçons, les rôles à attribuer à chaque catégorie, la pratique de l'espace. Par exemple, on voit souvent que le centre, c'est le domaine des garçons et les jeux de ballon, alors que les filles se retrouvent plus en périphérie. Le foot n'est pas naturellement un jeu de garçon et exclusivement un jeu de garçon. Mais ce sont des représentations sociales rattachées à ce jeu qui font que les filles s'excluent elles-mêmes ou sont exclues par les autres par la pression sociale entre enfants qui ferait d'elles des déviantes, ne respectant pas les normes. Donc, pour revenir à notre définition, si c'est construit, bah c'est pas naturel. Et comme le souligne la philosophe Judith Butler, le genre est performatif. C'est pas quelque chose d'inné qu'on a intrinsèquement en soi, mais un peu comme un acteur, ce sont des comportements qu'on doit toujours répéter et répéter pour correspondre à la norme. On n'a jamais acquis pour de bon notre genre. Il est toujours à performer dans la réalité sociale. Le masculin et le féminin n'existent pas préalablement, comme une chose innée en nous, mais ils se construisent perpétuellement dans la répétition des genres normatifs qui leur permettent d'exister. Mais alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence avec le sexe ? Ah là là, grande question. Allez, pas de suspense, on rentre dans le vif. Le genre construit le sexe. En fait, le genre produit des discours sur la soi-disant biologie du sexe. Alors oui, attention, il y a des différences biologiques et on peut pas le nier, notamment en ce qui concerne la reproduction. Et ça, faut bien le comprendre, les théoriciennes du genre ne le remettent pas en cause. Bref, évidemment qu'il y a des réalités anatomiques, une vérité biologique issue de notre évolution en tant qu'espèce. Mais en fait, d'un point de vue historique et culturel, le sexe est bien plus compliqué que ça. Il y a une histoire des sexes. Le biologique est toujours pensé dans des cadres socioculturels. Les caractéristiques du sexe féminin ou du sexe masculin n'ont que fait bouger durant toutes ces décennies. Un coup, on va se baser sur l'anatomie, c'est-à-dire sur ce qu'on voit. Puis un autre coup sur les gonades, les testicules ou les ovaires. Puis on s'est intéressé à l'ADN avec ses fameux chromosomes XX et XY. Il y a aussi des médecins qui sont allés chercher les différences au niveau de l'organisation du cerveau. Ouais, ça allait assez loin cette histoire. Et en fin de compte, on ne peut pas définir et objectiver clairement le sexe féminin et le sexe masculin. Comme le souligne le philosophe Thierry Hoquet, on est bien plutôt dans une nécessité sociale de définir ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Et donc là, on retombe sur nos pattes. Les sexes sont construits par les normes de genre. Je vais vous prendre un exemple. La double championne olympique et triple championne du monde sud-africaine en 800 mètres, Caster Semenya. Les JO ont toujours, dans un souci d'équité, défini clairement les frontières entre hommes et femmes. Les comités ont fait appel à de nombreuses sciences pour établir objectivement ces catégories. Sauf que cela a produit l'effet inverse. Les frontières entre hommes et femmes s'avèrent être bien plus floues. Caster Semenya va être amenée, elle, à passer des tests, et on se rend compte qu'elle produit naturellement une grande dose de testostérone, trop importante pour entrer dans la catégorie femme. C'est à partir de ce test qu'elle va apprendre qu'elle est hyperandrogène. C'est une catégorie intersexe. Les femmes hyperandrogènes produisent naturellement une grande dose de testostérone, même voire plus que les hommes. Selon la Fédération internationale d'athlétisme, cette production naturelle est vue comme un avantage injuste pour elle par rapport aux autres concurrentes. On va lui obliger de suivre un traitement pour faire baiser cette production naturelle si elle veut continuer à concourir, ce qu'elle va refuser. Et du coup, elle ne va pas pouvoir participer au championnat du monde en 2019. En fait, il faut savoir que toutes les athlètes féminines doivent avoir recours à un test de testostérone. Et selon Amnesty International, il y a environ 1,7% de la population mondiale qui naît avec des caractéristiques intersexes.
Cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. Cheveux d'or qui oublient leur vertu, mais c'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador.
asexué une fois dévêtu. Qui croire quand on les voit comme ça, excitant toutes les petites filles. Pourquoi on n'y croit plus comme ça, isolé dans un corps presqu'île. J'ai pas envie de la voir nue, j'ai pas envie de la voir nue. Et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. Pour les filles sans contrefaçon, maquillée comme ma fiancée. Le grand choc pour les plus vicieux, c'est bientôt la chasse aux sorcières. Ambigu jusqu'au fond des yeux, le retour de Jupiter.
Cette petite pause musicale de Chris et Indochine fait vraiment du bien. Mais on reprend. Même si le concept arrive tardement en France, aujourd'hui, il fait pas mal débat. On en entend beaucoup parler ces derniers temps. Par exemple, avec l'arrivée du pronom « Yel » dans Le Petit Robert, qui a fait polémique. Les avis divergent. Un effet de mode, une révolution ou un danger pour les valeurs traditionnelles. Mais allons au-delà de la théorie seulement, pour se tourner vers la pratique. Et je vous propose d'aller questionner les participants et participantes de la Marche des Fiertés qui s'est déroulée à Valence en septembre dernier. Alors, c'est quoi pour vous le genre ?
Et maintenant, on va réveiller.
Debout Valence !
Bah, le genre, il peut en avoir plusieurs. Il y a le genre masculin, le genre féminin, le genre non-binaire, c'est un genre non-binaire.
Non, c'est pas non plus des cases, c'est... Je pense que c'est vraiment être juste à l'aise avec soi-même, ne pas forcément se mettre dans une case, ne pas se reconnaître de genre ou s'en reconnaître un, tout simplement. C'est selon l'envie, le ressenti de la personne, tout simplement.
Moi, le genre, je le vois un peu comme un immense océan où tout le monde baigne dedans. Et où on peut être aussi totalement à l'extérieur de cet océan, ou dans cet océan, on peut être à plein d'endroits différents en même temps, ou à un seul endroit, naviguer. Je vois comme quelque chose de très vaste, et chez moi c'est très fluide aussi.
Comment dire ? Bah, en fait, dans notre... pour nous, on n'est ni homme ni femme. C'est... Enfin, on se met pas dans la case masculine, ni féminine, ni rien. On est vraiment entre les deux, on va dire, ou aucun. Ça dépend. Ouais, c'est un peu ça. Hein.
Oui, parce que quand on parle de homme, femme, on parle de quoi concrètement ?
Bah, de ce que la société elle nous a attribué. Genre par exemple un homme, bah c'est un homme.
C'est forcément quelqu'un qui a des pecs, qui a un pénis et tout ça. Et une femme, c'est forcément quelqu'un qui a un vagin et de la poitrine et tout ça. Et bah, c'est ça que la société nous donne comme homme et femme. Mais entre Après, souvent, il y en a beaucoup, ils font des réductions, par exemple, ils s'enlèvent le vagin ou le pénis parce qu'ils se sentent neutres ou qu'ils sont transgenres et tout. Et du coup, bah, qui sont un peu mal vus par la société parce que eux, c'est soit on est homme, soit on est femme, et c'est que les deux, voilà.
Et pourquoi ils sont mal vus par la société ?
Comment ?
Pourquoi est-ce qu'ils sont mal vus par la société ? En quoi est-ce qu'ils gênent, quoi ?
Parce que bah, depuis des milliers d'années, pour la société, il n'y a que eu des hommes et des femmes. Et c'était un homme, une femme, une famille, et c'est basta. Quand les gens ont commencé à se montrer en mode gay, lesbienne, ça a été mal vu, car c'était, on va dire, pour eux, contre nature, c'était pas ce que Dieu avait créé, entre guillemets. Voilà.
Pour moi, le genre, c'est plutôt comment on se perçoit et comment on vit son propre corps. Et du coup, c'est ce qui fait que je pense que chacun peut être libre de déterminer qui il est.
Du coup, pour moi, le genre, ça s'affilie un petit peu à une identité. Et bien souvent, par rapport au sexe de naissance, il y a un genre qui est attribué de manière arbitraire, alors qu'on voit de plus en plus qu'il y a de plus en plus de personnes au niveau individuel ou même au niveau des mouvements, des collectifs, qui justement revendiquent le fait qu'on peut choisir voilà, le genre qu'on veut, que ce soit masculin, féminin, non-binaire. Et du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose de très intime à construire soi et à construire soi par rapport aux autres. Et que pour le moment, malheureusement, on le voit bien que c'est pas du tout respecté et que c'est voilà qu'on force les personnes à respecter certains genres conventionnels, on va dire.
Et alors du coup, pour vous, quand on parle de homme, femme, ça vous réfère à quoi ?
Ouais, du coup, je pense que c'est des constructions. Des constructions dans l'imaginaire collectif. Et c'est assez prégnant, même encore aujourd'hui en 2021. Et une grande partie de la population qui pense que parce qu'on est un homme, on doit être fort, on doit pas être sensible, on doit être puissant, gagner beaucoup d'argent et jouer au football en buvant des bières le samedi soir. Et quand t'es une femme, tu dois être sensible, t'occuper des enfants, avoir une attention permanente aux autres. Enfin voilà, c'est des constructions et c'est aussi là ce qui se joue dans cette revendication, puis surtout dans les combats quotidiens des associations qui ont été citées, d'autres associations et à l'échelle individuelle aussi, c'est de déconstruire tout ça.
Moi j'aurais voulu compléter, il y a ce côté-là de homme-femme, mais il y a aussi le côté biologique pour la procréation. Chaque organisme sexuel a son rôle. Et du coup, les genres hommes-femmes ont été attribués selon ces deux rôles-là, mais on y a attribué également plein d'autres choses qui sont là totalement à déconstruire.
Le genre, c'est une construction de la société pour pouvoir avoir soi-disant des repères et pas être complètement perdu. Enfin, c'est un truc rassurant pour les gens. Mais en vrai, c'est super restrictif sur la liberté d'être qui on a envie d'être et d'avoir les relations qu'on veut. Et d'être, ça empêche la diversité, en fait. Ça empêche la diversité des corps, des silhouettes, des démarches, des relations, de la sexualité. En fait, dans le genre rentrent tous ces aspects-là et du coup, en faisant des catégories normées, et ben, on s'empêche de vivre toute une diversité qu'on essaye de retrouver ici dans cette marche, par exemple.
Ah oui, là, on peut bien le voir avec tous les différents drapeaux. Et justement, vous, le vote, est-ce que vous pouvez nous le décrire, celui que vous avez sur le dos ?
Bah, c'est juste un drapeau multicolore pour exprimer précisément cette diversité-là. Voilà. Parce que par exemple, les drapeaux par exemple, de la Manif pour tous, ils sont bicolores. Ben voilà, ils voient le monde avec deux couleurs. C'est un peu restrictif. C'est comme la télé en noir et blanc, mais version pour les êtres humains, quoi. Et ben nous, voilà, on montre des drapeaux multicolores avec du rose, du jaune, du vert, du violet, du bleu, du gris, du tout ce qu'on veut. Et ça exprime notre diversité d'êtres humains.
Un grand merci aux manifestants et manifestantes d'avoir accepté de répondre aux questions et de partager leurs avis. Leurs discours rejoignent nos propos antérieurs. Tous et toutes mettent l'accent sur la dimension construite des catégories hommes et femmes et des représentations attachées à celles-ci. Et la définition du genre comme un immense océan, je trouve ça super sympa pour imaginer la notion. Et mettre en avant justement la multitude de possibilités qui s'offrent à nous, dans la manière dont on se pense par rapport aux autres et avec eux.
Entrepopop.
Ouvrez vos livres, page 394.
Radio Belvé.
Il dit silence, s'il vous plaît.
93.6.
Donne-toi, s'il te plaît, au petit con avec moi. OK? So, next.
93.6.
Maintenant, allons un peu plus loin dans la notion et je vous emmène faire un petit tour du monde à travers diverses cultures. Une approche anthropologique permet de voir la relativité culturelle des rôles et des statuts des femmes et des hommes, mais aussi les valeurs attribuées au féminin et masculin, à l'hétérosexualité, et voir s'il existe plus que deux genres seulement. Une des premières à mettre en avant la dimension culturelle dans la construction des normes et rôles de genre, c'est l'anthropologue Margaret Mead dans les années 1930. Elle a travaillé aux îles Samoa, et pour elle, les cultures sont déterminantes dans ce qui constitue un comportement féminin ou un comportement masculin. Chez les Azandés au Soudan, nous explique l'anthropologue Edward Evans Pritchard, les jeunes guerriers épousent les plus jeunes garçons avant d'avoir suffisamment d'argent pour épouser une femme. En fait, les plus riches ont plusieurs femmes, et donc, mathématiquement, bah, y a pas assez de femmes pour tout le monde. Et notamment pour les jeunes, qui n'ont pas encore assez d'argent. Donc on épouse des garçons-épouses, qui vont se comporter comme des épouses. Les garçons-épouses ont un rôle social de femme. Ce n'est pas une confusion de genre, mais un renforcement de la distinction homme-femme. Pendant leur union, ils apprennent à devenir un guerrier, un homme. C'est un apprentissage entre hommes seulement, donc, laissant les femmes de côté, tout en renforçant la domination masculine. En gros, c'est de l'entre-soi masculin. À quelques milliers de kilomètres de là, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, chez les Barouya, terrain de prédilection de Maurice Godelier, durant les initiations masculines, les jeunes garçons devaient absorber le sperme de leurs aînés, car c'est une source d'énergie vitale, et ça les aide à grandir. Cette pratique, elle s'arrête quand on estime que le garçon rentre dans l'âge adulte. Maintenant, un détour en Amérique du Nord. L'anthropologue Pierrette Désy s'est intéressé à une catégorie de la population qu'on appelle les berdaches. Des hommes s'habillent en femmes. Ils ne jouaient pas un rôle de femme ni d'homme, mais un autre sexe social. On devient berdache quand les esprits, dans les rêves, disent qu'il faut jouer ce rôle dans la société. C'est une vocation, une fonction sociale. Ils ont un certain pouvoir car ils parlent avec les esprits et ils sont donc craints. Mais avec l'arrivée des Occidentaux et de leur vision du monde, les valeurs attribuées aux berdaches ont changé. Ils vont être par la suite mal vus. Le statut des berdaches va perdre de sa crédibilité et de son pouvoir. Pour finir, direction le grand froid, les Inuits. Lorsqu'un bébé naît, nous explique Saladin d'Anglure, celui-là peut être socialisé dans le sexe opposé à son sexe biologique. Un esprit de la famille peut s'être réincarné dedans. Par exemple, le grand-père qui se réincarne dans le corps de la petite fille qui vient de naître. Les parents n'ont pas le choix d'accepter. Du coup, elle va être socialisée comme un garçon. Puis, à la puberté, celle-ci va devenir une femme. Elle reprend le genre de son sexe. La plupart d'entre eux deviennent chamans, car ils sont les médiateurs entre les catégories hommes-femmes. Ils habitent les deux et peuvent naviguer entre ces frontières. Et ça là, on le retrouve un peu partout dans le monde, dans différentes sociétés. Alors attention, super méga important. À aucun moment, et je dis bien à aucun moment, on parle ici d'homosexualité, de déviance ou de marge sexuelle. Ça n'a strictement rien à voir. Ce serait une vision ethnocentrée, occidentale, abordant les relations seulement sous le prisme de l'hétérosexualité comme relation naturelle. Non, ce sont des pratiques sociales qui ont un sens dans un contexte culturel précis, ce qui permet la reproduction de la société, ça contribue à son ordre social, son organisation et aux rapports sociaux entre les individus. Bref, ça fait sens, mais tout autrement. Et pour comprendre ce sens, faut chambouler toutes nos représentations et tenter de comprendre leur manière de faire société. Alors oui, ça peut faire peur, ça demande un effort, mais je vous assure, ça peut que faire du bien. Voilà les anthropopotes, c'est fini pour aujourd'hui. Même si la notion ne fut pas simple du tout, j'espère avoir donné quelques éléments de compréhension. Et peut-être que maintenant vous verrez les choses différemment. En tout cas, je vous invite à chausser de temps en temps cette grille de lecture du monde et voir les rapports sociaux sous un autre angle. Comme d'hab, vous aurez les sources et d'autres infos sur le site, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre. Un grand merci à la technique de Radio BLV ainsi qu'aux manifestantes de la Marche des Fiertés qui ont accepté de répondre à mes questions. Le mois prochain, avec l'arrivée des élections, on parlera politique et pouvoir, mais sous une dimension anthropologique. A bientôt les anthropopotes!